et l'élève de Nahum Ishbamzou. Donc, je suis un spécialiste de l'explication des petits mots comme ach, rak, et ou gam. Alors, dis-moi un peu ce que tu vas dire sur le pasouk. Et hashamayim v'et haaretz. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Alors, il lui avait répondu, vous vous souvenez, que s'il n'y avait pas les mots et, j'aurais pensé que shamayim haaretz sont des idoles, quoi, quelque part. Sont aussi des divinités. Toutes des divinités. Alors, Rabbi Shmuel n'était pas très content de la réponse. La réponse est vraie, mais bonne, mais je pense qu'on peut dire mieux. Et dans le mieux, il dit en fait, si tu réponds comme ça, c'est comme si tu ne savais pas vraiment répondre autrement. Mais ça voudrait dire que tu n'as pas assez travaillé. En réalité, les paroles de Torah, elles sont notre vie, qui ou Hayechem, quand est-ce que c'est ta vie? Becha Shatem Yegeimba. Bon. Lorsque vous travaillez sur les textes, alors c'est votre vie. Et donc, moi je dirais, ou il faut dire, Et HaShamaim, ça inclut tout ce qui est dans les cieux, vous vous souvenez donc, le soleil, la lune, les planètes. Et Et HaAretz, ça inclut les arbres, le gazon, enfin les légumes, la verdure et le Gan Eden. Et voilà. Donc, on a parlé de ça. On a déjà parlé. Ensuite, on a parlé... Est-ce qu'on a parlé vraiment de Betzalel? Déjà? Oui. Betzalel par rapport à Moshe Rabbeinu. On a parlé de ça complètement. Si c'est oui, on passe, mais je
me souviens plus.
On en a parlé.
Ok. Donc, en fait, Betzalel, il a su beaucoup plus que ce que Moshe Rabbeinu lui a donné. C'est déjà une chose très intéressante. C'est qu'en réalité, il y a ici ce yosod que Moshe Rabbeinu n'a pas transmis au Bnei Israël tout ce qu'Hachem lui a dit. Il y avait des choses que probablement Moshe Rabbeinu a pensé, peut-être que Hachem lui a donné à comprendre. Il y avait des choses que lui devait savoir, mais qui ne devaient pas obligatoirement être transmises, et ce sera le cas de beaucoup de prophètes. Les prophètes, ils reçoivent des fois des messages qui sont à transmettre, et des fois ces messages sont en quelque sorte des façons de se construire eux-mêmes. Ils ont besoin de savoir des choses, mais qu'ils n'ont pas besoin de retransmettre, mais qui sont nécessaires pour comprendre d'autres choses éventuellement. Et c'est le cas chez Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe Rabbeinu n'a pas donné à Betzalel, semble-t-il, toutes les directives qu'Hachem lui avait données concernant le Mishkan. Mais paradoxalement, il s'avère par la suite que Betzalel était comme s'il était, comme il lui dit, tu étais à l'ombre, tu étais dans l'ombre, on t'a pas vu, mais toi tu as tout entendu de ce qu'Hachem m'a dit. Et à la limite... Même Moshe Rabbeinu, là, ce serait trompé, en fait, si on parlait comme ça. En tout cas, il lui a donné les directives qui ne correspondaient pas à ce qu'il faut vraiment faire. Et Betzalel, lui, savait mieux. Et Moshe lui aurait dit, donc, ok, visiblement, c'est ce que j'avais entendu. Maintenant, comment se fait-il? C'est pas que, il n'y a pas on parle pas d'un dogme d'infaillibilité. Mais comment se fait-il que Moshe Rabbeinu se soit tromper sur une chose qui est assez importante, surtout que pour se tromper là-dessus, il faut choisir une... Ce que Betzalel lui dit, c'est presque du bon sens. Il lui dit, on ne peut pas fabriquer le mobilier, où on va le mettre le mobilier, si on n'a pas fabriqué d'abord la maison dans laquelle on va mettre le mobilier. Donc c'est normal qu'on fasse d'abord le Mishkan et puis ensuite seulement le mobilier. Et quand Moshe Rabbeinu lui dit le contraire... En tout cas, c'est pas du tout, c'est contre-intuitif ce que Moshe Rabbeinu nous propose. Pas du tout compréhensible qu'on construise d'abord le mobilier où est-ce qu'on va le stocker? On dirait, Goku, il a bien des ressources. Si c'était ça qu'Hachem avait dit, on se serait débrouillé. Mais bon, en tout cas, c'est pas a priori ce qu'Hachem lui avait dit, ce que Moshe Rabbeinu nous dit, en vérité, c'est ce que j'avais bien entendu. Donc, il faudrait peut-être, mais c'est pas mon sujet maintenant, réfléchir sur pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a changé ce qu'Hachem lui a dit, pourquoi il lui a dit autrement. Alors, ensuite, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est l'application du pasouk dans Malachi. Il s'applique, le pasouk dans Malachi, il dit Torah temet haïta b'fiu. On parle ici en général d'Aaron HaKohen en réalité. Il avait une Torah emet dans sa bouche. Et alors, on dit, ça c'est le début du verset, Torah temet haïta b'fiu. Mais ensuite, c'est marqué aussi dans la suite du verset, Avla l'olim tsavis fatav. Il n'y avait pas non plus de mensonge ou de faute sur ses lèvres. Alors la dracha, elle est Torah emet. La Torah emet, c'est ce que il a entendu de son maître. Et lui, Moshe Betzalel, pardon, il a dit des choses qu'il n'a pas entendues de son maître. Alors, et néanmoins, elles sont correctes, mais celles-là, elles sont. C'est pas dit que c'était emet. C'est dit que c'était pas mensonger. Alors, c'est intéressant. Ça veut dire, ce qu'on peut demander à quelqu'un dans une dracha, dans un commentaire de verset ou dans une interprétation, c'est veiller à ce que ce soit pas faux. Le emet, c'est quand les choses sont dites exactement comme le maître l'a donné. Donc ça, c'était la caractéristique, si vous voulez, il y a des choses qu'il a entendues de Moshe Rabbeinu, ça s'appelle Torah Emet, et ce qu'il a trouvé par lui-même, même s'il se trouve que il a trouvé exactement ce qu'Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, c'est ce que Moshe Rabbeinu lui dit, ça c'est seulement Ve'avla l'onim tsavis fatav. Sur ses lèvres, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de faute. C'est intéressant, ici, comme distinguo, en fait, entre le Emet et le non. C'est pas le contraire du Emet. Bon, on en avait terminé avec ce Rav Abdimos. Il disait qu'il fallait lire le verset de Michelet, non pas en disant que ta bêtise ou ton incapacité, mais il fallait le lire comme si c'était Kis Shelcha, c'est-à-dire que si tu as donné de la tzedaka, alors, Akadosh Baruch Hu te gardera, et c'est-à-dire que, en réalité, comme on l'a dit, je crois, les dépenses sont décidées à Rosh Hashanah, mais il n'est pas décidé comment ce sera dépensé. Mais ce qu'on dit ici, c'est que tu peux le dépenser pour toi, en réalité. Et le pour toi, ça consiste à te donner à le donner en tzedaka. Et si tu ne le donnes pas, de toute manière, tu devras le dépenser en taxes, en impôts, toutes sortes d'impôts. Donc, je vais profiter pour lancer un appel, là, pour mettre un midrash. Donc, je persiste. Si vous voulez aider le Beth Amidrash, vous avez le droit de l'aider la tzedaka. Et c'est mieux que de devoir le payer en impôts. En plus, c'est bien en déduction des impôts en France. C'est gagnant sur tous les plans. Je prends le dernier de ce chapitre, le 15. Il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, Hashamayim nivra'u tchila, ve'achar kach nivra'at ha'aretz. Beth Shammai disent, les cieux ont été créés en premier, et la terre n'a été créée qu'après coup. Ou Beth Hillel disent le contraire, la terre a été créée en premier, et les cieux n'ont été créés qu'après coup. Alors, Elo mevim ta'am le divriyem, ve'elo mevim ta'am le divriyem. Les uns comme les autres apporte un tam. Le tam, c'est la raison, mais c'est aussi un goût. Le mot tam veut dire aussi le goût. Donc, ils amènent une raison, mais qui donne un certain goût à ce qu'ils disent. Alors, Beit Shammai, Daten Beit Shammai, ils pensent, le pasuk qu'ils amènent à l'appui de, enfin, la raison qu'ils donnent, ils disent, eux, que les cieux ont été créés en premier, et la terre après. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un machal. Le machal, c'est un roi. Chassalo, qui sait? Il s'est fait un trône. Après avoir fabriqué un trône, il a fait un repose-pied pour son trône. Et là aussi, c'est comme ça qu'ils voient, eux, le verset. Le verset qui dit, c'est un verset du Navi. Le Navi Yeshayahu dit, c'est Hachem qui parle, par le prophète en question, Hashamayim kisi, les cieux sont mon trône. Veharetz, et la terre est Adom Raglaï. La terre, c'est mon repose-pied. Voilà. Donc, la preuve que Beit Shammai amène que les cieux ont été créés avant la terre, c'est pas la preuve que vous auriez amené. Qu'est-ce que vous auriez amené comme preuve, vous? Il y a une preuve évidente, non?
L'ordre. L'ordre dans la Torah.
Oui. C'est ce qu'elle dit la Torah. Le récit par Elohim, donc, est à Shamaim, ve est à Aretz. Donc, on pourrait dire, ben c'est simple, les cieux sont cités en premier. Maintenant, si on avait dit ça, ça nous aurait donné, bon, on va la discuter, cette phrase-là. Mais, ça n'aurait pas donné de tam. Ça ne donne pas un goût. Ça veut dire, ça nous dit rien. Ça ne dit pas le pourquoi des choses. Il n'y a pas d'image. On ne sait pas pourquoi les cieux d'abord. C'est ce que ça veut dire que les cieux sont créés d'abord. Tandis qu'avec le verset du Navi, les cieux sont présentés comme le trône divin. Donc, on comprend bien qu'il y a une hiérarchie. On crée d'abord le trône. Et ensuite, les accessoires, savoir le repose-pied du roi quand il est sur son trône. Donc ça, c'est vraiment un tam. Ça donne un certain goût à cette prééminence, cette création en premier de la terre, du ciel. Ensuite, le Beit Shammai, Beit Hillel, pardon, Beit Hillel, eux, ils disent à Aretz, la terre a été créée d'abord. Et le ciel après. Et eux aussi, ils apportent un machal. Le machal, c'est un roi qui construit un palais. Quand on construit un palais, on construit d'abord le rez-de-chaussée. Puis ensuite seulement, on construit les étages supérieurs. Il y a un ordre dans la construction. On ne peut pas construire les étages supérieurs avant d'avoir construit le premier étage, enfin, ou le rez-de-chaussée. De la même manière, le Yom, il y a aussi un verset, il amène aussi un autre verset. Le Yom Asot Hashem Elohim Eretz Beshamay. C'est un pasouk dans la Torah qui parle du jour où Hashem Elohim a créé la terre et le ciel. Et Amar Rav Yehuda Bar Ilai Afdin Kra Mesaya le Beit Hillel. J'ai encore un autre verset qui vient à l'appui de la thèse de Beit Hillel. Parce que c'est marqué dans Tehilim, Lefanim ha'aret yatsata. Le premier, si vous voulez, c'est la terre que tu as fondée. Et achar kach, umasi yadecha shamayim. L'œuvre de tes mains, les cieux. Alors, Amar Rav Chanin, mimakom she amikra mesaya le bet shamay, en vérité, à partir même du verset qui vient à l'appui de bet shamay, c'est à partir de ce même verset que bet hillel refuse la thèse de bet shamay. Parce que c'est marqué dans le verset, dans le premier verset, c'est-à-dire, en fait, ici on fait comme si Beit Shammai s'appuyait aussi, évidemment, sur le récit de Bara Elohim et Hashamayim d'abord, mais Taharetz ensuite. Seulement, juste après, dans la Torah, c'est marqué, Veha'aretz haïta, Tohu Vavohu. La terre était. Ça veut dire, elle était déjà avant qu'Hachem ne crée le ciel. Le récit Bara Elohim, Hamaim, au début, Hachem a créé le ciel, et la terre était. Elle était déjà avant cela. Et donc ça, donc quasiment, le verset de la Torah dont on pourrait penser qu'il vienne à l'appui de Beit Shammai, seulement si on coupe on ne regarde que le début, que le premier verset. Mais si tu regardes le deuxième verset, tu es en échec. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est sous-entendu que Beit Shammai va utiliser ce verset, mais c'est pas celui-là qui t'amène vraiment. Parce que là, avec la remarque de Beit Hillel, parce que Rav Chanin a dit que sur Beit Hillel, bon, ça casse complètement la démonstration de Beit Shammai. Rabbi Yochanan, b'shem chachamim, amar, Rabbi Yochanan, au nom de chachamim, dit, la briat shamayim kadmu, la shichlul aretz kadma. Lui, il a l'air de faire une espèce de compromis. Il dit, la création, elle a commencé par les cieux. Mais ça n'a été, au moment où c'était terminé, la terre a été terminée avant. Donc, ça, on commence avec le ciel, puis il y a la terre, et on termine la terre, et on termine le ciel. Amar Afrikuma, Ana Amrita Ama. Moi, je vais donner une raison. Donnez-vous un tam, un goût. Ibriat Hashamayim Kodmu. Pourquoi est-ce que on peut dire que les cieux ont été créés d'abord? Parce que marqué, Bereshit Bara Elohim. Ou le Shichlul Haaretz Kadma. Mais, on s'est vraiment terminé. C'est la terre. Shenemar, Beyom Asot Hashem Elohim. Eretz Veshamayim. Donc, lui dit, si je prends les deux versets, je peux donner un terme à ce qui vient d'être dit, en vérité, et d'une certaine manière réconcilier le Amar Shimon Bar Yochai. Tama a dit, je suis très étonné. Ech nechleku avot haolam. Comment se fait-il que les pères du monde, Bet Shammai ou Bet Hillel, se sont opposés à l'briat shamayim va'aretz. Ils sont opposés sur l'ordre de création du ciel et de la terre. Et là, chez Annie, pourquoi est-ce que je comprends pas du tout pourquoi ils se sont opposés? Annie Omer, moi je dis, dit Rav Shimon, moi je dis, shneem lo nivrahu, ela, qu'ils fassent de Kisouya. Moi, je dis qu'ils ont été créés ensemble. L'un était la marmite et l'autre son couvercle. Mais on est dans une hypothèse où on a créé la marmite, son couvercle, à partir d'une boule. On a une boule qu'on a creusée et la partie supérieure est aménagée en couvercle. Cinéma, Kore, Ani, Alehem, Yamdur, Yardav. Ça, c'est un pasouk du Navi. Moi, je leur dis, ils vont se tenir ensemble. Amar, Rabbi Elazar, Rab Shimon. Alors, le fils de Rab Shimon a dit, Im Kedat Abba. Si c'est comme mon père le dit, Azlama, Permim, Sheu, Magdim, Eretz, le Shamaim, ou Permim, Sheu, Magdim, Shamaim, Laaretz. Pourquoi, dans certains versets, dit-on d'abord le ciel et après la terre, et dans d'autres le contraire, l'ordre contraire. Et là, ça veut dire quoi? Mais la même chez Shneem, Tchkulim, Zé, Kazé. C'est-à-dire que les uns sont aussi importants les uns que les autres. Chakul, c'est pesé. Pèse autant l'un que l'autre. Et il dit, c'est une règle générale, ça. Le Chol Makom. Voilà, il va appliquer cette règle-là. Il dit, voilà, partout, on trouve Abraham est cité, Abraham avant Yitzhak et Yaakov. Mais à un endroit, c'est marqué le contraire. C'est écrit dans le Sefer Vayikra, dans la Torah elle-même. Zacharti et Briti, je me souviendrai de mon alliance, de l'alliance avec Yaakov, et seulement Briti Yaakov, et puis ensuite seulement Abraham. Melamed, Sheshloshtan, Shkulim Ze, Baskaze. Ça veut dire que les trois avot pèsent autant l'un que l'autre. Bechol makom ou magdim Moshe le Aaron. Partout on cite d'abord Moshe et Aaron, et seulement Aaron après. Il y a un endroit où le pasouk dit ou Aaron ou Moshe. On cite Aaron en premier. Melamed, Sheshnem, Shkulim Ze, Kaze. Ça veut dire que les deux pèsent autant l'un que l'autre. Bechol makom ou magdim Yoshua le Kalev. On cite toujours Yoshua avant Caleb. Mais il y a un endroit où on cite Caleb avant. Yim Caleb ben Yefouné, Aknizi, Yoshua bin Nun. Ezmagit, Sheshnem, Shkulim, Zekazé. Ça vient nous enseigner qu'ils sont, ils pèsent autant l'un que l'autre. Chol Makom, ou Magdim, Torin, Livne Yona. On cite d'abord les pigeons et après les colombes. Makom Echad, le contraire. Marqué ben Yona, o tor le chatat. Magdim sheshnem shkulim ze kaze. Bechol makom ou magdim kibudav laem. Ou makom echad ou omer, ish imo ve aviv tirao. C'est d'abord la mère et après le père. Magdim sheshnem shkulim. Aval amru chachamim. Donc ici il y a un petit problème. Parce qu'ici on nous dit que le père et la mère pèsent autant, ça veut dire on leur doit autant de kavod à l'un comme à l'autre. Mais les chachamim ont dit que Av kodem la ben, la em. Mais le père passe avant la mère. Il venait chez Hu ve'imo chayavim bichodaviv. Parce que l'enfant et sa mère ont une obligation de donner du poids, du kavod à leur père. Chol makom ou magdim briat shamaim laaretz. Makom echad ou omer. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, מגיד ששניהם שקולים זה כזה. Donc, רבי שמעון בן אלעזר, il a ramené toute une liste de situations où on considère une paire, ou des fois c'est même un triplet, et on les énumère une fois dans un certain ordre, et une autre fois dans un autre ordre. Alors, on pourrait dire, en réalité, pourquoi ça a été mis effectivement une fois dans cet ordre, une fois dans ce temps? Parce que c'est vraiment ça qu'on voulait dire. On voulait dire, mais comment on peut le dire? Comme on écrit. Quand on écrit, on est bien obligé de mettre l'un avant l'autre. C'est toujours un mot avant l'autre. Donc, le seul moyen qu'on a d'exprimer que on veut dire que les deux sont vont ensemble, sont à la même hauteur. C'est le moyen qu'on a, c'est de le dire une fois dans cet ordre et une autre fois dans un autre ordre. Donc c'est clairement un principe général, à savoir que il faut toujours regarder quand deux personnes ou deux choses sont mentionnées. Là, en l'occurrence, on a même regardé la différence entre les pigeons et les colombes. Et on voit très bien que quelque chose est mentionné toujours d'une certaine manière. Il faut regarder s'il n'y a pas une exception. Parce que peut-être l'exception, elle existe quelque part. Il faut donc connaître toute la Torah pour vérifier qu'il n'y a pas un autre endroit, enfin un endroit, où l'ordre est inversé, auquel cas, cette inversion de l'ordre, elle vient pour me dire que les deux sont égaux, ils pèsent autant l'un que l'autre, ou ils ont été créés ensemble. Voilà. Donc, on a un problème ici, le sujet ici de la création, après qu'on ait regardé la Torah, etc., maintenant on regarde qui est dit au niveau de la Bria, au niveau de la création du monde. Et Bet Shammai et Bet Hillel ont discuté qu'est-ce qui a été créé d'abord. Et la première question qu'on doit se poser, c'est que ça a vraiment une importance. Ça change quoi? Le ciel a été créé avant la terre ou après la terre? Ce que ça veut bien nous faire, en réalité. C'est quoi l'enjeu ici? Quelle importance cela a-t-il? Pour que, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je comprends pas pourquoi ils se sont disputés. Mais lui, quand il dit je comprends pas pourquoi ils se sont disputés, il vient pas dire ici ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, il y a une façon très facile, très très simple de présenter les choses, d'accord, de telle sorte que on voit bien que les choses sont créées ensemble. Et ça va très bien. Si on montre que les choses ont été créées ensemble, c'est très bien. Et lui, il dit, c'est très simple. Moi, je vois, comment est-ce que je peux voir qu'ils ont été créés ensemble? Alors, c'est qu'ils forment une entité. Et l'entité en question, c'est une marmite. Une marmite, mais qui est fabriqué dans une boule, si vous voulez, qui est creusé et une partie de la partie supérieure de la boule va servir de couvercle à cette marmite. Donc l'image d'une marmite, le monde vu comme une marmite, avec un contenant et son couvercle. Alors, qu'est-ce qui est le contenant et qu'est-ce qui est le couvercle ici? On a créé qu'il fasse le kisuyot. Mais on ne sait pas ce que pense. Qu'est-ce qui est le plus important dans une marmite? La marmite elle-même ou le couvercle? Évidemment, et en plus, est-ce que quand on fabrique la marmite, est-ce qu'il n'y a pas une chose qu'on fait avant l'autre? Est-ce qu'on fabrique d'abord le contenant, donc la marmite elle-même, ou d'abord le couvercle? Et encore une fois, qu'est-ce qui est couvercle et qu'est-ce qui est le contenant? A priori, si on regarde simplement que le ciel est au-dessus de la terre, alors le ciel serait le couvercle et le corps de la marmite, c'est la terre. Ce qu'on va mettre dans la marmite, c'est les choses qui sont sur la terre. Et maintenant, quelle est la fonction de du couvercle dans une marmite? C'est de garder la chaleur, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que bon, ça cuise mieux, plus vite, etc. Et on garde la chaleur qui est mise dans la marmite pour que la chaleur ne s'en aille pas, ne vole pas, ne se dissipe pas. On va mettre un couvercle. Donc le couvercle, donc l'essentiel finalement, c'est bien dans la marmite. Et si je comprends bien, l'essentiel c'est donc la terre. C'est la terre qui joue ce rôle de la marmite. Et donc le ciel serait quoi? Serait une espèce de garant, viendrait mettre à la fois des limites à la terre, si on peut parler comme ça, mais c'est aussi ce qui va permettre à la terre de jouer pleinement son rôle. C'est-à-dire la marmite, elle sera d'autant plus efficace qu'elle aura un couvercle. Et donc, ici on est en train de dire, je ne sais pas pourquoi ils sont disputés pour savoir ce qui a été créé avant ou après. Mais d'après ce que il dit lui-même, ils ont peut-être été créés ensemble. Mais ils n'ont pas tous les deux la même importance. Or, dans la discussion pour savoir qu'est-ce qui a été créé en premier, on s'en fiche pas mal de ce qui a été créé en premier. A priori, ce qui a été créé en premier, c'est l'essentiel. Bon. Et donc, finalement, il n'est pas sorti de l'auberge. Avec son histoire, ils ont été créés ensemble, effectivement. Il y a un passage qui dit effectivement dans le Nabi, toujours, c'est toujours Yeshayahu d'ailleurs, Kore ani aleem yamdu yardav, ils se tiendront ensemble, ils adviendront ensemble. Oui, d'accord, ils adviennent ensemble, mais en vérité, si on y regarde un peu plus près, ils adviennent pas vraiment ensemble. C'est-à-dire l'image qu'il a donnée, cette marmite, ne résout pas vraiment le problème. Alors, on revient au problème. C'est quoi l'enjeu de ce problème de Tchama et Bet Hillel? Alors, est-ce que c'est simplement quoi? Ils sont dérangés parce qu'il y a des fois des psukim qui vont dans un sens et dans un psukim dans l'autre sens? Non. Visiblement, ils s'opposent réellement. Alors, ce qui est intéressant, enfin, me semble-t-il, qu'effectivement, on nous dit qu'ils se sont opposés, Beth Shammai dit quelque chose, et Beth Hillel dit le contraire. Mais le Midrash, lui, dit que ce qui est important, ce sont les arguments qu'ils amènent, et leurs arguments sont, comme je vous l'ai dit, sont présentés comme étant un tam, un goût, un sens, ça donne une certaine, oui, quand on regarde le goût, qu'est-ce que ça veut dire que le tam, la raison ici, une raison, mais est-ce qu'ils amènent une raison, si je prends tam au sens d'une raison? Regardez Beit Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Ils amènent comme tam, comme raison. Les cieux ont été créés d'abord. Pourquoi? Ben, ils amènent un machal. D'accord. Ils disent, voilà, on a un machal. C'est quoi le machal? Le machal, c'est, en fait, je vais sauter celui-là d'ailleurs. Inun Amrin, Hashamayim Nivru Trila, Ve'achar Kach Haaretz, Machal le Melech She'asa Lo Kisse. Ah oui, non, effectivement. On en a parlé déjà. Donc, ils veulent dire que le roi, il fait d'abord son trône, et après, il va fabriquer un repose-pied. Bon. Ça, est-ce qu'il y a quelque chose à redire? On comprend que on s'occupe d'abord de fabriquer un trône et après le repose-pied. C'est clair. Mais donc, ça voudrait dire que ce qu'on fait d'abord, donc le trône, c'est le ciel, pour Beit Shammai. Bon, ce qu'il dit, qui a été créé d'abord, c'est le ciel, donc, et c'est le trône qui est créé d'abord. Donc, le ciel serait le trône divin, et la terre, le repose-pied d'Hachem. Bien, pour Hachem, c'est, d'où est-ce qu'on le, pourquoi je dis ce machal, dit le Midrash, parce que, effectivement, il y a un passouk qui dit ça, que les cieux sont le trône, et la terre, et le repose-pied. Alors, de nouveau, on a un petit problème. Vous avez un verset qui dit, les cieux sont mon trône, et la terre, mon repose-pied. Qu'est-ce qu'il a amené comme machal? J'ai besoin. En quoi le machal nous apporte quoi que ce soit par rapport à ce verset? Ce verset, il est absolument clair, non? Il dit très clairement que le ciel, c'est le trône et la terre, le repose-pied. Est-ce qu'il a besoin de m'amener un verset, un machal qui dit que le roi, quand il construit, quand il se construit d'abord un trône et après le repose-pied. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que Hachem fait, c'est comme, il fait comme n'importe quel roi. Il n'y a pas quelque chose dans la création serait assimilable simplement à une démarche royale, humaine, rien de spécial. Les chamans ont l'air de présenter ça comme une trivialité, quasiment. C'est étonnant, non? Bon, c'est... dire là, ici que ça me semble très étrange en vérité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour Beit Shammai, la terre c'est un repose-pied. Donc comme son nom l'indique, un repose-pied c'est là où on met les pieds. Donc ça a un goût justement comme il le décrit. La terre, c'est pour reposer les pieds pour Hachem. Que pour Beit Hillel, la terre, c'est un palais. Donc, un repose-pied et un palais, c'est pas du tout le même goût. Donc, dans un sens, on va du repose-pied vers le trône, et dans l'autre, dans le sens de Beit Hillel, on part du palais. Et après, il y a les étages supérieurs. C'est pas du tout le même.
Vous ne suivrez pas, Thierry. Le Beit Hillel, ils ne disent pas du tout qu'il y a d'un côté le palais et les étages supérieurs. Le palais, il a plusieurs étages. Beit Hillel dit seulement, tout ça, c'est le même palais. Mais évidemment qu'on va construire le premier étage. Parce qu'il est nécessaire, la suite ne peut pas se construire. On peut pas construire la suite. Là, ici, si vous voulez, la grande différence, c'est que le trône, il existe même s'il n'y a pas de repose-pied. C'est-à-dire que, bon, ben, les pieds, ils vont balloter, c'est peut-être désagréable, mais il sera quand même assis sur son trône, le roi. Alors que, donc ça veut dire que le ciel, à lui tout seul, il a une raison d'être, je sais pas. Et la terre, c'est simplement pour alléger la chose, pour Beit Shammai, pour rendre les choses plus agréables, plus faciles, plus confortables, quelque part. Alors que pour Beit Hillel, la terre est au service, enfin, elle a une raison d'être pour elle-même, et elle est au service des étages, elle permet les étages supérieurs. C'est-à-dire, quelque part, le ciel, d'après Beth Hillel, le ciel n'existe que si la terre existe. Parce que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de ciel. Le ciel ne pourra pas être construit si on n'a pas construit d'abord la terre. Vous comprenez? Oui. Tandis que le ciel, pour Beth Shammai, le ciel, on peut le construire sans la terre. Et même, d'une certaine manière, il se suffit presque à lui-même. On va ajouter la terre, mais comme un confort. Ça veut dire que c'est comme quelque chose d'extrême, non seulement viendrait après, mais qui n'est pas fondamental. Tandis que la terre, là, dans chez Beth Hillel, est absolument fondamentale. Donc, leur marque loquette, elle est vraiment, qu'est-ce qui est fondamental, si on peut parler comme ça? Pour Beth Shammai, ce qui est fondamental, c'est le ciel. Pour Beth Hillel, ce qui est fondamental, c'est presque étymologique, ce qui est les fondements,
c'est la terre.
C'est la terre.
Absolument.
Donc, c'est une marque-loquette complète.
Oui, parce
c'est,
que pour.
C'est une opposition complète.
Oui,
mais
parce
c'est
que.
Pas vrai.
Pour Beth Hillel, le palais d'Hachem, il est sur la terre, alors que pour Beth Shammai.
Non, c'est pas le palais, c'est pas le palais. Le trône.
Il marque bien que le roi construit un palais sur la terre.
Alors que vous voyez, à l'instant où vous voyez ça, vous avez peut-être raison, mais je ne le vois pas. La terre est construite d'abord. Machal le Meler, Shebala, Platine. C'est tout, il a construit un palais, c'est tout. Shebala est un tartonim. Achak, Arbana, il a créé d'abord les tartonimes. Mais c'est la partie du palais. Il a créé je vous ai dit le rez-de-chaussée ou le premier étage, si vous voulez, du palais. Et ensuite, il a créé les étages supérieurs. Mais tout est le palais. Si vous voulez, il y a simplement que on est, même dans le palais lui-même, le palais, il ne peut avoir des étages supérieurs que s'il a d'abord des étages inférieurs, que si on a d'abord créé la terre. Mais c'est tout ça, c'est le palais. Il n'y a pas le palais sur la terre. La terre ici n'est pas au service du ciel. Le ciel n'est pas possible sans la terre. Ici, pour Beth Hillel, je pense qu'il est qui est premier, qui est fondement, littéralement, c'est la terre. Et après, s'il y a la terre, alors on peut envisager le ciel. On peut ensuite envisager les étages supérieurs du palais. Ce serait un palais avec... Et tout ça, c'est les deux constituent le palais du roi. Le roi, il veut être... On peut presque dire il est d'abord sur terre, en fait. Et le ciel, bon, c'est une option. On peut construire d'autres étages. Mais le ciel est optionnel par rapport à la terre.
Oui, mais pour Beth Shammai, le trône, il vient
du ciel. Suffit à lui-même, semble-t-il. Et donc, on peut se demander à quoi sert la terre. Vous voulez pour Beth Shammai, si le ciel se suffit à lui-même, alors pourquoi créer la terre?
Pour le repose-pied.
C'est un confort. Mais le repose-pied n'est pas, il n'est pas une partie du trône. Le repose-pied, il est vu comme un élément supplémentaire, si vous voulez, qu'on va mettre au pied du trône pour que, c'est pas marqué que il a construit aussi le repose-pied comme une partie du trône. On a l'impression que chez Beth Shammai, c'est curieux, comme si le ciel avait une importance en soi. Alors, est-ce que ça vient de ce que... le problème, c'est comment comprendre cette importance du ciel, d'un ciel sans la terre, en quelque sorte. C'est vraiment le trône divin. Et la terre n'est que, voilà, c'est, ça veut dire que Beth Shammai considère, d'une certaine manière, la terre, c'est donc, la terre, ça veut dire les hommes, a priori. Le travail que font les hommes sur la terre, les êtres humains, c'est bien.
Est-ce qu'on peut pas
c'est fondamental.
Est-ce qu'on peut rapprocher ça avec le passage qui dit que Hachem a créé la terre, mais la terre n'est pas le lieu d'Hachem.
Au contraire, quand Hachem a créé le monde, en fait, c'est marqué qu'il a créé le monde parce qu'il voulait résider, Metartonim. Il voulait justement résider dans le monde d'en bas. Et la démarche de l'humanité qui est démarche désastreuse, si vous voulez, elle a consisté à chasser petit à petit Hachem de la terre. Déjà raconté, ouais, dans les premières générations, du temps d'Adam Arishon, la présence divine était sur terre. Et puis au fur et à mesure que les gens sont devenus de plus en plus idolâtres, finalement ils ont chassé Hachem jusqu'au fameux septième ciel. Et quand Hachem est au septième ciel, c'est le plus grand éloignement d'Hachem par rapport à la terre. Il y a eu Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il a commencé à faire redescendre la présence divine. Il a fait redescendre du 7 au 6. Et ensuite, Yitzhak, Yaakov, etc. Et ensuite, Yaakov, et ensuite son fils Lévi, Kehat, Amram, Moshe. C'est Moshe qui a ramené la présence divine, lui qui a obtenu le pardon d'Hachem, qui a obtenu que Hachem réside en quelque sorte parmi les hommes, reviennent. Donc c'est lui qui a remis les Bnei Israël au Sinaï, ils se sont retrouvés dans la condition d'Adam Arishon avant la faute. D'accord? Ça veut dire de nouveau avec la présence divine. On pourrait qu'ils sont devenus, ils sont redevenus immortels, etc. Ils se sont dépêchés de perdre avec le veau d'or, malheureusement. Si on peut parler comme ça, malheureusement. Mais ce qui est peut-être important, peut-être ce que Beit Shammai, ce que je pourrais entendre ici dans Beit Shammai, c'est que d'une certaine manière, il faut quand même comprendre que, si vous voulez, la terre, avec le travail que les hommes font sur la terre, ça n'a rien changé à Hachem. Hachem, il est toujours le même, il n'est pas changé par la création. La création du monde n'a pas changé Hachem. Simplement, nous, vu de notre point de vue, nous, on regarde l'implication d'Hachem dans la gouvernance du monde. C'est ça qui va jouer un rôle pour nous, ça qui est important pour nous. C'est de ça qu'on va parler, en quelque sorte. C'est à l'histoire de l'humanité. Mais qu'au niveau de la création, on puisse encore penser que le ciel est essentiel, ça c'est la démarche de Beit Shammai qui n'est pas du tout la démarche de Beit Hillel. Si vous voulez, tant qu'il n'y a pas de création, alors Hachem, Hachem est tout seul. Mais dès le moment où on peut parler de création, alors, du coup, ça donne une importance à la création elle-même. Et c'est comme si, il y a le trône, c'est vrai, il est toujours là, mais l'essentiel, c'est quand même le travail que les hommes sont appelés à faire. D'accord. Ce qu'Hachem veut, justement, c'est que son trône descende d'une certaine manière, arrive presque sur terre. La Gemara dans Souka, elle dit que, on discute, est-ce que, quand on dit qu'Hachem résidait dans le monde d'en bas, la Gemara là-bas elle dit que jamais Hachem n'est descendu plus bas que Yitfakhim. Yitfakhim c'est un mètre. Donc il n'y a jamais Hachem n'est jamais sur la terre vraiment. Et Moshe Rabbeinu, quand on dit que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il n'a jamais dépassé un mètre. Bon. Parce que ce sont des domaines différents. Jusqu'à un mètre, c'est un certain domaine, et au-dessus, c'est un autre domaine. Donc, ce sont deux domaines qui se touchent, si vous voulez, mais on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Hachem, d'une certaine manière, ne se manifeste jamais très clairement aussi. S'il se manifestait dans le monde d'en bas, il n'y aurait plus de monde d'en bas, il n'y aurait plus de liberté, on ne peut plus. Donc, il ne vient pas, il met pas trop de lumière, en quelque sorte. Il reste suffisamment haut pour que la lumière soit bénéfique, mais ne nous détruise pas. Et les hommes sont appelés à monter, à s'élever, etc. Mais le risque, c'est que les hommes se prennent pour Dieu. Hachem a dit, l'oto veyota adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, il a dit, ramène Rashi, il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'il va se prendre pour Dieu. Et les anges risquent de le prendre pour Dieu. Et donc, il faut veiller à ce que ce soit enlever cette ambiguïté et On va faire en sorte qu'il soit pas tout seul. Bon, c'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour qu'on se trompe pas, qu'on confonde pas les choses. Et donc ici, pour nous sommes descendants de Bethilel, si on peut parler comme ça, au sens juridique, au sens d'enseignement et tout, d'accord. La terre est fondamentale, que ce soit la marmite au sens de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, et pas le couvercle, ou bien ici aussi que c'est le premier étage du palais. Et le palais, il n'est pas possible qu'il y ait un étage supérieur du palais si on n'a pas préalablement, ça ne sera pas un palais, si vous voulez. S'il y avait un étage supérieur qui pouvait vivre sans la terre, ce ne serait plus un palais. Un palais, par définition, mais y compris le palais d'Hachem, c'est un palais qui a ses fondements sur la terre. Il a un premier étage, un rez-de-chaussée, si vous voulez, enfin, les fondements sont vraiment, c'est la terre, c'est sur la terre, c'est à voir avec la terre et pas avec le ciel. Je crois que c'est... Alors, du coup, on peut se dire, puisque c'est ça, le ta'am de leurs opinions, donne un ta'am à ce qu'ils disent. Donc, la marloquette, c'est ça, l'enjeu, c'est celui-là. L'enjeu, c'est, qu'est-ce que c'est exactement cette création? Est-ce que la création, c'est quelque chose de qu'il faut voir comme fondamental? C'est-à-dire, Hachem veut avoir, il veut avoir un palais, et il n'aura pas de palais, si on veut, si la composante terre ne joue pas son rôle parfaitement, il n'y aura pas de palais, pas du tout de palais. Et évidemment que ça n'empêche, il sera toujours Hachem, mais le palais, ça existe seulement si les hommes jouent leur rôle, si la terre va pouvoir jouer son rôle. Et pour Beth Shammai, quelque part l'accent est mis sur le côté de bon, Hachem, il n'est pas, il n'y a rien de changé de son point de vue. Le trône, ça, même avec la création, le trône, c'est bien l'idée d'une création. Il y a une création avec un trône, parce que Hachem, avant la création du monde, il n'a donc pas besoin de trône, puisqu'on dit que le trône, il l'a créé en créant le ciel. Donc avant la création, il n'y a pas de notion de trône, il n'a besoin de rien du tout. Le trône, c'est une nécessité pour un roi par rapport à son peuple. Si Hachem crée un monde, alors dans le monde, il va y avoir un trône. Mais avant, il n'y avait pas de notion de trône. Donc, tu veux un trône, alors Beth Shammai dit, il faut faire attention. Mais il ne faut pas s'imaginer que le fait qu'il y ait un trône, ça va donner une trop grande importance à la terre. La terre est quand même très secondaire par rapport au trône. Ça n'a pas changé en quelque sorte. Quelque part, Hachem lui-même ne s'est pas compromis, si vous voulez, dans la création plus que ça. Et bien sûr, il va gouverner la terre, il va diriger les choses, mais c'est quelque part ça n'a pas d'impact sur le trône. Le trône n'est pas mis en cause par la terre. Le trône, il est là. C'est tout. Oui.
Le trône sans piédestal, tout de même, il est un peu, il existe, mais tout de même, il est pas stable, il est dévalorisé d'une certaine manière. S'il a pas son piédestal, là, c'est pas seulement. Ouais. Je sais pas si c'est un repose-pied ou un piédestal, terme.
Non, c'est un repose-pied.
D'accord, parce que c'est un repose-pied pour les pieds de Hachem, métaphoriquement, d'une certaine manière, c'est ça. Pas ouais. Pour le trône. C'est-à-dire, c'est pas le soutien du trône. Non, parce que dans la traduction, il y a marqué piédestal. D'accord.
Non, raglav. C'est Adam raglav. Les pieds, ses pieds, donc.
Enfin, ça sous-entend quand même la version de Shammai, il y a quand même une notion de trône sans, non, sans assise, enfin sans fondement d'une certaine manière, c'est-à-dire de flottement.
C'est pas sans fondement, mais effectivement détaché en quelque sorte. C'est un drôle de trône en fait.
Oui.
Qui, quelque part, Oui, on voit pas le, on voit pas clairement le lien. Si vous voulez,
il tire quand même sa stabilité de ses pieds normalement.
Oui, mais ses pieds, il n'a pas besoin de stabilité en vérité. Il s'agit de reposer les pieds. Bon, on est obligé de dire c'est ici Veraglai. C'est mon trône et mes pieds. Donc c'est vrai, il y a un repose-pied, repose des pieds de celui qui est sur le trône, en fait. Et je crois que cette idée que voilà, la terre n'est que le repose-pied. Alors je vous ai dit, c'est plus confortable, ou peut-être que le roi a une meilleure assise s'il peut poser ses pieds. Alors un roi qui serait avec les pieds ballants, comme si vous êtes sur une chaise très haute, vous avez les pieds qui sont posés nulle part, effectivement, on n'est pas vraiment assis. L'assise n'est pas très bonne. Et donc, quelque part, la terre va servir à ce qu'il soit mieux assis sur son trône, si on peut parler comme ça. Mais c'est tout, elle n'est pas négligeable, la terre. Mais elle est vraiment, elle l'aide à être assis sur son trône.
Mais peut-être
pas constitutive du palais, enfin, palais du trône non plus.
Oui. Peut-être qu'un trône, ça ne peut pas être un trône sans repose-pied.
Non, mais si le repose-pied était une part du trône, vous avez raison que probablement il faut toujours un repose-pied parce que par définition le trône est en haut et les pieds ils sont en l'air. Il faut toujours un repose-pied. Mais on pourrait, il y a des chaises, vous avez, si vous voulez, des barreaux qui sont constitutifs de la chaise sur laquelle vous pouvez poser vos pieds.
Oui.
Mais tandis que là, c'est pas exactement comme ça. C'est la terre qui est autre que le trône. Elle sert de repose-pied. C'est comme si il est mobile le repose-pied par rapport au trône, si vous voulez. C'est une image. On peut le déplacer, on peut le bouger. Et donc, l'enjeu, c'est donc de savoir quel est exactement qu'est-ce qui se passe dans la création? Qu'est-ce qui se passe avec Hachem, si on peut parler comme ça, dans la création? Qu'est-ce qu'il a mis de lui-même, si vous voulez, si on peut parler comme ça, dans la création? Alors, bien entendu, en théorie, là, de son point de vue, il s'est rien passé. D'accord? Voilà. Mais, si on dit qu'il ne s'est rien passé, alors toute la avoda, tout le service d'Hachem n'a pas de sens. Donc, on est obligé de regarder les choses de notre point de vue à nous. Comme dit Nefesh HaFaim, si tu regardes de son point de vue à lui, la avoda, le service d'Hachem, la prière, les mitzvot, tout ça, ça n'a aucun sens. Parce que rien de son point de vue, il s'est rien passé. Mais de notre point de vue, nous qui regardons les choses et pour lesquelles Hachem se manifeste en tant que nous dirigeant, nous nourrissant, il nous prend en charge, etc. Bon, alors, on va regarder où est-ce qu'il est exactement.
Mais pourquoi vous dites qu'il ne s'est rien passé de son point de vue?
Du point de vue de Hachem, parce qu'il ne peut rien se passer du point de vue. De son point de vue, il ne se passe rien, il n'est pas différent, il ne change pas. Hachem. Il n'est pas changé par la création du monde. Lui-même, enfin, s'il peut parler comme ça, pour lui-même, on peut dire.
D'accord, ok.
Grave.
Oui.
Dans ces cas-là, c'est un peu difficile à comprendre parce que on parle quand même d'un ratson de Hachem puisqu'il veut, il souhaite, séjourner, je trouve pas le verbe, mais être présent. Dans ce Mishkan qui est construit dans le désert, il le souhaite ça. Oui. Et on l'a vu, il y a 7 jours d'inauguration, il est très présent, Aaron.
C'est pas seulement dans le Mishkan, c'est sur la terre en général.
Oui, mais bon, j'ai pris l'exemple du Mishkan mais ici, comment on peut dire d'un côté que je comprends ce que vous dites, à savoir rien ne peut entaché ou bougé ou bousculé Hachem, mais d'un autre côté, il a décidé de cette création et il veut être présent et que les hommes le reconnaissent. Et il fait toute une stratégie, même on peut dire politique et militaire, avec le pharaon pour cela.
Ça, c'est seulement vu de notre côté, Ilan. De notre côté, effectivement, nous, on doit considérer que c'est comme si, effectivement, il est le roi, il s'implique, il fait la guerre, il fait, etc. Mais si vous réfléchissez à ce que ça veut dire Hachem, vous ne pouvez pas imaginer qu'il va être changé. Il ne change pas, Hachem. Il n'est pas soumis à un changement. Il n'est pas dans le temps. Il ne se passe rien. On ne sait plus de son côté. Mais ce n'est pas intéressant ce qui se passe de son côté. Ça ne nous concerne pas.
Oui.
Seulement, c'est juste dit pour qu'on ne se trompe pas. Il ne faut pas s'imaginer que les hommes, en fait, ont changé Hachem pour lui-même, il est inchangé.
Mais pour... Oui, ben, justement, pourquoi... Oui, d'accord. Et pourquoi, dans ces cas-là, le fait qu'il voudrait être présent par la Shekhina dans le Mishkan, ça le changerait? Pourquoi
ça ne change pas. Ça ne change pas.
Alors, donc, il n'y a pas de problème.
C'est vu de notre côté, les choses, ça change beaucoup lui-même. Il a dit, on en a parlé déjà, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu quand il l'a envoyé sortir les Bnei Israël d'Égypte. Il lui a dit, jusqu'à présent, c'est-à-dire dans toute la Genèse, tout le Sefer Bereshit, et au début du Sefer Shemot, j'ai fait des promesses au Avot. Et je n'ai jamais tenu mes promesses au sens, je n'ai jamais réalisé les promesses. Donc eux, ils ne m'ont connu que comme un Dieu qui fait des promesses. Avec le nom du Dieu qui fait des promesses, et etc., c'est quel Shakai. Et maintenant, dit Hachem à Moshe, maintenant, c'est un nouveau nom divin. Le nom divin, c'est le tétragramme. Et ce nom divin-là, c'est le plus haut des noms. C'est le nom divin de la qui réalise les promesses. C'est le même, c'est que Shakai et Hachem, c'est bien le même. Mais si vous voulez, c'est des modes de gouvernance du monde qui sont différents. Et donc, nous, on constate que Hachem, à certains moments, comme on le voit, comme on dit, il y a des moments où il tourne son visage, comme on dit, vers nous, et c'est la lumière, c'est la bonté, tout va bien. Puis il y a des moments où il détourne son visage, et on prend toutes les tuiles possibles. C'est ce qu'on appelle Esther Panim. C'est passé au moment de la guerre, c'est ce qui est passé au moment d'Esther, avant l'intervention d'Esther, etc. Là, tout ça s'appelle Esther Panim. Le visage d'Hachem, il est caché, il est détourné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'Hachem il fait tourner la tête. Ça veut dire que certaines fois Hachem gouverne le monde et on a, comme si, dans l'image qu'on peut utiliser pour le dire, c'est Hachem a tourné son visage rayonnant vers nous et donc il nous envoie toute la lumière, toute la chaleur, toute la bonté, etc. Et on le ressent clairement. Et des fois, on a l'impression qu'il s'occupe pas de nous, ce qui est pas vrai, il s'occupe toujours de nous. S'il ne s'occupe pas de nous, on n'existerait pas. Mais on le voit pas, il se manifeste pas clairement. Au point que il y a des gens qui vont demander, mais où il était à tel et tel moment, où il était, etc. D'accord? Ben, il était là. Parce que si on entre dans le détail des choses, on voit très bien qu'il était là. Il s'occupait de celui-ci, c'est pas qu'il s'est pas occupé, mais l'autre, il a eu une autre trajectoire et tout. Donc, c'est pas qu'on comprend ce qui s'est passé. Mais on voit très bien qu'il y avait une gouvernance. Comme on dit, chaque balle de fusil avait un destinataire bien précis. Et c'est pas au hasard. Comme ça. Ça, là, les choses sont pas du tout déroulées. Au hasard, seulement nous, on n'a aucune idée de pourquoi les choses se déroulent comme ceci ou comme cela. Certaines fois, la Torah nous le dit. D'accord? On vous dit, voilà, vous êtes mal conduit, maintenant vous êtes en exil. Voilà. Là, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qui était vraiment la cause de l'exil? Alors, les Chachamim ont discuté, on va pas le refaire maintenant, mais ils ont discuté quelle était la cause du premier exil en Babylonie. Qu'est-ce que la cause de l'exil dans lequel nous sommes encore aujourd'hui? c'est pas les mêmes causes. Chachamim nous ont dit. Là où ils nous ont dit, alors on sait. Mais là où ils n'ont rien dit, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas expliquer. On n'a pas. Mais là, justement, on nous dit, voilà, il y a une discussion fondamentale sur le premier verset de la Torah, donc sur le projet divin, et une discussion entre, comme on dit, comme Rabbi Shimon a dit, il s'agit des Avot Haolam, c'est les pères du monde. Shammai Bethilel, c'est des montagnes. Bon, et ils ont discuté sur cette question-là. Et toutes les deux façons de voir sont correctes. Sont bien sûr, elles sont vraies toutes les deux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de voir la chose. Et même des choses, des façons qui ont l'air complètement contradictoires. Parce que si on dit que ce qui était plus important, c'est le ciel, ou bien si on dit ce qui était plus important, parce que d'écrit d'abord, ou de façon plus importante, c'est la terre, ben, ça change complètement la vision du monde. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. On veut savoir comment est-ce qu'il faut considérer le monde. Alors, pour Beth Hillel, c'est clair, le monde est un monde où on a la terre et le ciel qui sont tous les deux ensemble le palais divin. Bon, c'est le palais. Simplement, il se trouve que la terre, bon, elle est le soubassement, le fondement, et elle est la condition du palais, des étages supérieurs du palais. Donc le ciel, de ce point de vue-là, il n'existe que s'il y a une terre. Donc, c'est paradoxal, ça veut dire que le ciel n'existe que sur la terre, on pourrait dire que c'est comme si on disait qu'en vérité, si les hommes ne le reconnaissent pas, Hachem n'existe pas. Bon, dit comme ça, bon, on peut très bien, ça me dérange pas de dire qu'il n'existe pas parce que, en fait, Hachem, on peut pas dire qu'Hachem existe ou n'existe pas. Pour lui-même, tous ces mots-là, ils n'ont absolument aucun sens par rapport à Hachem. Donc, par rapport à nous, d'accord, pour ce que nous on peut en dire avec les abus de langage qui sont obligatoires quand on veut dire quoi que ce soit sur Hachem, on est obligé d'utiliser des anthropomorphismes ou d'autres abus de langage. On ne peut pas faire autrement. Les mots, ils sont faits pour les hommes, ils sont pas faits pour Hachem. Parce que s'ils étaient faits pour Hachem, ils seraient plus adéquats pour les hommes. C'est l'un ou l'autre. On est dans des mondes différents, ce que je vous dis. Et donc, on utilise le mot, il n'existerait pas, vous voyez, au sens où, Hachem lui-même, il a dit, par exemple, quand les Bnei Israël vont sortir de l'Égypte, ils ont dit à Hachem, alors donne-nous des mitzvot. Alors Hachem a dit, mais d'abord acceptez-moi comme roi. Quelle autorité aurais-je pour vous donner des mitzvot si vous ne m'avez pas accepté comme roi? Donc Hachem demande à être accepté comme roi. Et là-dessus, on a très bien, on a déjà vu, un passage qui dit qu'il Hachem Amloucha ou Moshe Bagoïm. Il y a deux façons de gouverner les hommes. Ou bien c'est le roi, ou bien c'est le Moshe. Le Moshe, c'est un tyran. Et le roi, il est roi seulement si le peuple l'accepte. Et c'est ça la royauté dans le clan Israël. Ils sont rois désignés par Hachem, tout ce que vous voulez, mais quand les hommes décident qu'ils ne veulent plus de ce roi-là, il n'est plus roi. Je vous ai déjà dit souvent, quand le fils de David, Avshalom, s'est révolté contre lui et que la majorité du peuple a suivi Avshalom, David, Amelech, n'était plus roi. Quand Shalom est mort, il est redevenu roi. Bon. Donc le peuple décide. On accepte le roi, on l'accepte pas. Parce que Melech, c'est un roi qui est accepté par les sujets. Et alors, nous, on a le privilège d'avoir été invités à accepter Hachem. Et donc, nous, on a ce rapport où Hachem est le roi. On n'arrête pas de dire dans toutes les brachot, vous dites, Baruch, Ata, Hachem, Melech Haolam. Mais c'est nous qui le reconnaissons en permanence comme roi du monde. D'une certaine manière, si on le reconnaissait pas, ben il le serait pas. Parce que c'est un roi sans sujet. Melech sans sujet, ça n'existe pas. Un Moshel, il peut prendre des gens et les contraindre. Un tyran, un dictateur, un Führer, ou un, je sais pas, ou un Staline, ou un Pol Pot, ou je sais pas, ces gens-là. Bon, voilà, c'est des dictateurs. Ils s'imposent, ils demandent pas leur avis au peuple. C'est tout. Mais les relations d'Hachem avec le clan Israël ne sont pas de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'on a des situations un peu difficiles où, justement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et du coup, ben, on est en exil. Et encore une fois, c'est toujours la même histoire. C'est, tout ça, c'est la suite du choix qu'Abraham Avinu a fait. Hachem lui avait demandé de choisir. Et il a choisi l'exil. C'est-à-dire qu'au lieu de nous détruire, Hachem nous envoie en exil.
Et Rav, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ça pourrait être une raison de ce peu ou ce manque de reconnaissance à l'esterpanine de Hachem?
Oui, Hachem se détourne de nous, donc, à la limite, si nous on le veut pas, si nous, on, par notre conduite, on dit bon, tu nous as donné les mitzvot, mais on s'en occupe pas, on le fait pas, on fait pas ce que tu nous demandes de faire. Il dit bon, vous voulez pas, ben, vous allez voir ce qui se passe. Hachem, on voit dans la parasha, les parashot qu'on va lire cette semaine, on voit très bien, Hachem donne des mitzvot, et dit, bon voilà, si vous faites ce qu'il faut, alors je suis, Ani Hachem Elokechem, je suis votre Dieu. Si vous voulez pas, je serai pas votre Dieu, c'est pas que, bon, j'aurai pas la relation de proximité, donc vous n'aurez pas, on n'aura pas cette intimité avec Hachem, et du coup, esterpanim le cas échéant, que je me détournerai. En fait, vous avez l'impression que je me suis complètement détourné, mais c'est pas vrai, parce que sinon, comme je vous l'ai dit précédemment, vous n'existeriez pas. Et Hachem s'est détourné complètement du monde, le monde n'existerait pas. Et la définition, c'est que Hachem est nécessaire, comme dit Rambam. Il est nécessaire, cette nécessité est telle que si lui, on pouvait imaginer que lui n'existe pas, enfin ne soit pas, rien n'existerait. Par contre, le monde pourrait très bien ne plus exister du tout, ça n'invaliderait pas du tout qu'Hachem est là. Lui, il est là, il serait là, sans, comme il était là avant la création du monde, enfin, il serait là, voilà, il serait aussi là. Il n'y avait plus de monde, mais il se trouve qu'il a fait une alliance avec Abraham et que quelque part, avec le peuple juif, voilà, quelle que soit la conduite, peuple, ils se conduisent pas bien, ils vont en galoute, mais ils ne sont pas complètement détruits. Ça, c'est le privilège qu'Abraham a eu. Hachem l'a choisi et il lui a donné à choisir entre le galoute ou la mort, une situation comme les autres, mortelle, comme c'est ce que Hachem a choisi et ce qu'Abraham Aminou a choisi. Donc, pour en revenir à notre sujet, je pense que c'est ça l'enjeu entre les savants des Hillel, c'est de savoir exactement quel est le rôle de la Terre. Bon, je veux dire, la Terre peut être le premier étage incontournable du palais. Il n'y a pas de palais sans ça. Ou bien non, il y a un trône qui, lui, n'est pas du tout dépendant de la Terre. Simplement, quelque part, le trône ne peut être vraiment un trône, jouer son rôle de trône, disons, uniquement si y a la Terre. La Terre va être la possibilité d'être vraiment assis sur le trône. Quelque part, jouer son rôle de roi. À condition que les Israël l'acceptent, c'est ça, c'est-à-dire que sur la terre on l'accepte, et c'est les Israël qui sont en charge de jouer de faire ce qui incombe à la terre, ce qui incombe à ceux qui sur la terre sont capables de reconnaître. Ça, c'est la situation, si vous voulez. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici. Il y a encore un peu de choses à dire la prochaine fois là-dessus. Et ensuite, on passera au deuxième chapitre de...